Hey, yo, Koso, bienvenue à tous et bonjour mademoiselle, mais voyons qui êtes-vous?
Bonjour.
Donc, nous accueillons donc une invitée spéciale cette semaine, elle s'appelle...
Élise,
voilà. Et Élise, ça fait un petit bout de temps qu'on lui disait « Mais viens à l'émission !» Et en fait, je crois que pendant un an, on n'en a pas reparlé et l'occasion s'est présentée cette semaine. Donc tu découvres en fait Radio Canu et Mouteki.
Oui, tout à fait.
Mais pas tout à fait non plus tout l'univers des musiques japonaises. T'es quand même relativement imprégné de culture jap, de choses comme ça.
Ouais, je suis fan de manga.
Déjà. Et puis il y a une chanson effectivement, en tout cas d'une artiste que tu aimais bien, dont tu m'as parlé. Et puis alors si j'avais su, j'en aurais mis deux ou trois autres qui sont de grands classiques de l'émission, on va dire. Voilà. Donc on est heureux de vous retrouver pour ce Mouteki. Alors malheureusement sans Romain qui doit être aujourd'hui à Hiroshima. Il était à Oita ces derniers temps. Oita, si vous ne savez pas, c'est au sud du Japon, sur l'île de Kyushu. Et là il est remonté sur l'île principale. Regardez votre carte, hein, c'est Honshu. Et il est remonté donc du côté, je crois, hein, de mémoire, de Hiroshima. On aura une prog comme d'habitude toujours aussi variée. On a commencé avec DJ Ozma. Alors DJ Ozma, en quelques mots, c'est une sorte de rocker DJ amuseur public. En fait bref, c'est un comique qui fait de la chanson et vice versa, plutôt un chanteur qui fait du comique. L'ex-leader d'un groupe de rock qui s'appelait Kishidan, où les gars avaient des coiffures un peu à la Furio, tu sais, les bananes un peu...
Avec la banane d'Elvis.
Mais voilà, un peu à la Happy Days. Je cherchais Fonzie, voilà, un petit peu à la Fonzie ou à la Kuwabara pour les plus vieux. Donc voilà, un groupe assez barjo qui s'est séparé en 2005. Lui a fait 3 albums en solo, c'est le dernier en date, qui s'appelle I Love Party People 3, parce que forcément il y a eu un 1 et un 2. Là c'était une reprise de Hide, si vous ne saviez pas, c'est la chanson Ever Free, première chanson sortie à l'époque, en tout cas pour Hide, posthume, post-mortem. Là on va commencer avec le fameux feuilleton qu'on a depuis quelques semaines, les fameuses idols des années 80. Ensuite il y aura un peu de Nana Mizuki, il y aura une interview également de deux grands anciens qui ont écrit un livre qui retrace les 10 ans d'aventure de Player One, le magazine Player One qui est né en 90, qui est mort en 2000 et qui a suivi avec d'autres bien sûr, mais qui a été l'un des acteurs majeurs de l'émergence de toute la culture japonaise, vidéoludique et puis toute la pop culture en général, puisqu'il y avait aussi des articles sur les films, il y avait un article sur Wayne's World par exemple, je me souviens. Bon, c'était un petit peu tout à la fois, mais surtout une grosse partie consacrée aux jeux vidéo. Et on a interviewé donc Olivier Richard et Alain Kahn. Alain Kahn, qui, si vous ne le savez pas, dirige aujourd'hui les éditions Pika, qui sont une émanation, qui sont les successeurs des éditions, qui en tout cas de la maison d'édition de Player One à l'époque. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Le podcast, c'est www.myspace.com/Mouteki Canu. Et c'est nouveau, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Mouteki, c'est parti.
Hi, this is Olivia, you're listening to Mouteki.
Et on va commencer avec les idoles des années 80. On va commencer avec Hilo Kali, c'est Koino Teenage Boogie.
だけでは騙されないから恋のティーンエイジブギー初めて のきねじぶぎ」
Sur Radio Canu, où un démon viendra vous jouer de l'accordion. Très mal en plus.
Nana Mizuki sur Muteki, juste à l'instant, la chanson c'est Don't Be Long. On vous a passé on vous avait passé à l'époque la face A, voici la face B, donc Don't Be Long. Juste avant, c'était nos deux demoiselles. En fait, elles sont plus que deux, même s'il y avait deux chansons. Le premier c'était Hiro Carry et c'était un groupe. Alors faut voir la pochette du 45 tours où tu les vois en. Là, c'est du photomontage. À l'époque, il n'y avait pas du tout d'ordinateur pour ça. On était quand même en 82. Les ordi n'avaient pas la possibilité de faire ça. Mais enfin, c'était un photomontage entre des morceaux de photos d'elles un peu en biais, en fait, pour dire ça fait moderne et tout. Enfin, bref.
Aux couleurs flashy.
En plus, avec ça, des couleurs flashy, exactement. Je crois que c'était du jaune dominant. De
rose, bleu, fluo.
Voilà, du plus bel effet. Juste après, c'était donc Kumi Aoba. Koiwa Teeny Weeny, et je crois qu'on a compris la chanson sans même énoncer le titre, en fait. Je crois qu'elle commence tout de suite Teeny Weeny et puis la chanson commence. Donc Aoba Kumi et Hiro Carry, deux chansons qui datent de 82. C'est bien sûr, bien entendu, notre feuilleton de ces trois prochains mois, les idoles des années 80. On va vous passer les 45 chansons du triple CD que nous avons dans nos studios. Encore une fois, merci Laurent de nous avoir déniché une chose pareille. C'est absolument génial, historique, anthologique, même si au Japon, forcément, il y en a un petit peu plus que ça. Là, c'est pas la seule compile qui existe dans l'archipel. On va passer à quelques petites news vite fait. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps d'en parler puisque ce sera le 3 avril. Et le 3 avril, il n'y a pas Muteki puisque moi, je pars et Romain n'est pas encore revenu du Japon. Le 3 avril, au soir, il y a Hit à Lyon dans la salle du Nakamal, X66 Nakamal, donc qui se trouve à Gorge de Loup, un petit peu à l'écart, juste à côté de la station de métro, mais un petit peu à l'écart des grandes voies de circulation, si j'ose dire, du quartier. Voilà pour Hit, et puis on a un autre concert, deux autres concerts, puisque en fait il y a deux scènes programmées dans le cadre de la Foire de Lyon. Je ne sais pas, Élise, tu dois le savoir, les affiches le montrent de partout. Non, tu n'as pas vu ? T'as pas vu ? Oh là là,
non,
alors.
Non, non.
Et donc il y a la Foire de Lyon en ce moment à Eure Expo, c'est à peu près logique, c'est la saison. Simplement, cette année, la thématique, c'est le Japon. Donc forcément, il y a tout ce qui va bien comme animation, concours de cosplay avec Lyon, Hoshi, et j'insiste bien sur ça, le jeudi prochain. Alors c'est pas un concours, c'est même un défilé d'ailleurs. Il y a aussi deux concerts, on le disait, Detroit 7, excellent groupe de rock qu'on a vu au Printemps de Bourges notamment, qui est ensuite repassé par la France. Enfin bref, ils ont trouvé de bonnes personnes pour les faire tourner, de bons contacts et de bons amis pour faire assez régulièrement l'aller-retour avec la France. Ils sont ce soir, ce samedi 20, aux abattoirs de Bourgoin, et demain, dimanche 21, pour la Foire de Lyon. Et vendredi prochain, c'est une légende, on va dire, tu connais, n'est-ce pas? Là, pour le coup, Senseiya, Sailor Moon, le batteur des musclés, enfin bref, Bernard Minet, quoi.
Qui revient faire un concert.
Voilà, Bernard Minet qui revient faire un concert.
Ça rajeunit pas.
Non, ça, c'est peu de le dire, c'est là que je me dis que je prends de l'âge. Voilà, qu'est-ce qu'on fait à faire encore des conneries à la radio, mais voilà. Donc Bernard Minet, voilà, le vendredi 26 sur la scène de la Foire de Lyon. Là encore une fois, ça a commencé hier ou avant-hier, donc c'est vraiment tout récent. Allez-y, il y a également des expos sur le Japon traditionnel, il y a du taiko également, donc des tambours traditionnels japonais. Donc tout un pan de la pop culture de l'archipel qui s'expose à Eurexpo. Voilà pour les news. Si j'oubliais encore une, ce sera le 10 avril, mais je pense que Romain vous rafraîchira la mémoire d'ici là. Par contre, c'est le Manga Voiron Festival qui se déroule donc à la salle des fêtes de Voiron, et ce sera le week-end du 10 avril avec forcément tout ce qui est indispensable, concours de dessin, cosplay, projection, tout ce qui fait les incontournables d'un vrai événement centré sur la pop culture japonaise. Voilà, je crois qu'on en a à peu près fini. On a fait plus court que d'habitude parce que généralement on parle beaucoup. Et là, le temps de caler, de voir si l'interview est bien calée, on va passer donc à cette fameuse interview d'Alain Kahn et d'Olivier Richard. qui sont en fait Olivier Richard, donc ils vont se présenter eux-mêmes, ce sera beaucoup plus simple, hein. Donc Alain Kahn, qui, on l'a dit, dirige aujourd'hui Pika Édition, Olivier Richard qui est un journaliste émérite qui a dirigé plusieurs chaînes, donc là encore une fois ils vont se le présenter, mais on l'a fait cette interview parce que ils viennent de sortir un livre qui s'appelle Les Chroniques de Player One, qui est dispo dans toutes les bonnes crèmeries, qui sera également au Salon du Livre si vous montez à Paris, ce sera Porte de Versailles le week-end prochain. Et donc qui relate les 10 ans d'aventure de ce magazine et des dérivés de ce magazine, puisque pour les fans de Nintendo, il y avait Nintendo Player, il y avait également l'émission Player One sur France 2, sur MCM, Télévisateur 2 qui était fait par des gens de Player One, c'était il y a une quinzaine d'années, en concurrence d'ailleurs avec Dorothée, puisqu'on parlait de Bernard Minet, c'était donc le week-end, le samedi matin sur France 2. Bref, tout un pan finalement de la culture à la fois vidéoludique et papier et télé. Donc on va les laisser se présenter, c'est parti.
Alors Alain Kahn, le parcours est long, oui, malheureusement, parce que plus on vieillit, plus on a travaillé. J'ai commencé en informatique, je suis arrivé à la presse, informatique, jeux vidéo, manga, et puis finalement à aujourd'hui, où je dirige une maison d'édition de manga, Pika Édition, une maison importante, sérieuse. Et donc c'est vraiment mon activité principale, mais c'était sympathique de profiter d'être à la fois éditeur, mais aussi un peu auteur, et de connaître de bons co-auteurs pour sortir un livre sur un peu l'histoire du manga et l'histoire du jeu vidéo que nous avons fait.
Je suis Olivier Richard, j'ai commencé en étant journaliste dans la musique et le cinéma. Ensuite, j'ai travaillé à France Télévisions et à MCM et aussi à Mediasystem, tout en continuant à travailler en presse écrite, notamment dans Player One, dans lequel je traitais de jeux vidéo, de manga et de cinéma principalement. J'ai dirigé les programmes d'MCM, d'Europe de TV, de Virgin 17. Et là, je viens d'écrire avec Alain Kahn aux éditions Pikin un livre qui s'appelle Les Chroniques de Player One, qui raconte l'histoire du manga et du jeu vidéo en France entre 1990 et 2010.
Le livre s'appelle Les Chroniques de Player One, à l'occasion des 20 ans du lancement du magazine. Dans le dossier de presse, je lisais que c'était le premier magazine dédié aux consoles. Dans ma tête, je pensais au numéro 0 de Console Plus, donc il est sorti avant en fait.
Oui.
Il est sorti quelques mois avant alors.
Oui.
Alors, le numéro 1 de Player One est sorti en septembre 90 et le numéro 0 de Console Plus, le hors-série Tilt, est sorti à l'été 91.
Le groupe à l'époque, qui était les éditions mondiales, avait un magazine qui s'appelait Tilt. Et dans le cadre de ce groupe, ils ont voulu effectivement sortir Console Plus. Ils ont sorti Console Plus. Mais nous, à l'époque, on avait démarré avec Amstrad, avec les revues Amstrad. Et en fait, on a été un peu plus rapide. Et donc, nous avons bien été le premier en termes de date, pendant un certain temps aussi en termes de chiffres. Et donc on a gardé le premier magazine de console de jeux vidéo pendant toute la vie du journal, ce qui énervait énormément tous nos confrères.
La concurrence de l'époque, effectivement. Voilà. Il y avait Sega Nintendo pour les consoles, il y avait Tilt, il y avait Console Plus et Player One pour les magazines de console, alors c'est ça, en quelque sorte.
Absolument. Mais non, il faut reconnaître aussi qu'à un moment donné, il y a eu Joypad. Et donc en fait, on était trois. Au départ, c'était Console Plus et Player One, mais après, le Joypad a bien marché. Donc, en fait, on était vraiment trois. Et au niveau des consoles, on est resté jusqu'à la fin trois. Majeur.
On fait une digression sur les magazines de consoles, mais s'il y avait de particulier dans Player One, et vous l'avez soulevé il y a juste un instant, c'est que ça ne parlait pas tout à fait que de jeux vidéo. Moi, je me souviens d'articles sur, par exemple, Wayne's World, ou d'articles traitant de la Japanimation. C'était quelque chose qui élargissait vraiment le champ de l'univers lié au Japon et aux jeux vidéo à l'époque. Est-ce que aujourd'hui c'était volontaire ou c'était venu tout seul ?
Non, mais dès le départ, il était prévu. Déjà, cette ouverture existait dans le magazine, le premier magazine lancé par MSE, qui s'appelait Amstrad CPC, dans lequel on parlait de jeux sur CPC, mais aussi de bandes dessinées, de musique, de cinéma, etc. Donc la logique éditoriale est restée la même, c'est-à-dire que pour la rédaction, le jeu s'inscrivait dans un ensemble plus global qu'on appellerait l'entertainment, le divertissement, et c'était tout à fait logique pour la rédaction de traiter, tout en étant un magazine de jeux vidéo, de s'ouvrir au cinéma, à la bande dessinée, et bien entendu à la bande dessinée et au dessin animé japonais, puisque la plupart des jeux vidéo de l'époque venaient du Japon.
Petite précision avant de continuer, Amstrad CPC a cessé sa parution quand Player One a été lancé?
Non,
il y a eu quand même...
Amstrad CPC a continué encore pendant 3 ans, a cohabité avec Player One pendant 3 ans et s'est arrêté ensuite parce que le CPC d'Amstrad était une machine qui ne connaissait plus d'actualité.
Quel est le sujet sur lequel vous avez travaillé? Est-ce que c'est simplement une compilation des unes de Player One que vous aviez voulu transformer en quelque sorte en roman, en récit en quelque sorte? Ou est-ce que vous avez choisi un sujet précis, quelque chose, un fil rouge à toute cette épopée?
Alors non, c'est absolument pas une compilation de quoi que ce soit de Player One. En fait, c'est le thème 20 ans de jeux vidéo et de manga. C'est le vrai thème, c'est l'histoire, évidemment beaucoup plus orientée sur les années 90-2000, du jeu vidéo et du manga, et de la vie de Player One. Le livre est assez dense puisqu'il y a 320 pages. Ça n'est pas que l'histoire de Player One, c'est l'histoire de Player One dans l'environnement complet du jeu vidéo d'un côté, du manga de l'autre, avec beaucoup d'interviews, beaucoup d'intervenants. Donc c'est un livre qui est vraiment beaucoup plus un livre entre guillemets d'histoire, mais d'histoire on va dire actuelle ou d'histoire récente, que une compilation de quoi que ce soit de Player One.
De la radio pour ceux qui n'ont pas encore entre leurs mains ou qui ne l'ont pas encore vu, c'est pas simplement un MOOC comme on peut le voir par exemple pour les éditions Pix & Love dont on parle beaucoup, c'est les livres assez illustrés avec des images de jeux vidéo qui reprennent un petit peu le concept des magazines de l'époque. Non, là c'est un véritable livre, j'allais dire avec peu d'images et beaucoup d'histoires.
Le livre comporte 16 pages d'illustrations couleurs et 300 pages environ de texte qui racontent trois histoires, l'histoire du magazine et des gens qui l'ont fait, l'histoire du jeu vidéo en France avec des entretiens avec les patrons de Nintendo, de Sega, de Cryo, et aussi l'histoire du manga et du dessin animé japonais avec des entretiens avec les gens qui ont pris le risque de l'importer en France au début des années 90, c'est-à-dire Jacques Glénat, Dominique Verret, et aussi des cinéastes ou des auteurs de bandes dessinées qui s'inspirent de ce qui se fait en Asie, donc comme Christophe Gans ou Olivier Vatine, et un entretien avec Moebius qui connaît très bien tout ce qui se fait au Japon puisqu'il a travaillé avec les Japonais. Et l'idée étant de montrer l'émergence en France d'une, d'une sorte de culture puisque Player One est sorti l'année de l'apparition d'Akira en France en fait. En 1990, Akira est apparu en France et Player One sortait quelques mois plus tard. Comme la Mega Drive la même année et la, le Game Boy qui sont arrivés en 1990 aussi.
La Super Famicom au Japon aussi je crois, il me semble aussi. Qui a eu l'idée de sortir ce livre, en tout cas qui a invité l'autre à travailler avec lui?
Alors, bon, évidemment, moi je suis à la fois le, peut-être le co-auteur, mais aussi, on va dire, un des personnages du livre. Et en fait, bon, j'ai quand même dirigé pendant 10 ans, un peu plus, Mediasystem Edition. La fin du magazine, la fin de la société m'était restée très clairement en travers du gosier. À la fois, bon, pour des raisons évidemment économiques, mais aussi pour des raisons, on va dire, de déception, d'échec, de c'est jamais très agréable de fermer quelque chose qui a vraiment représenté beaucoup pour beaucoup de monde, le lecteur ou ceux qui ont participé. Donc c'est vrai que ça me travaillait depuis un certain temps de faire d'une façon ou d'une autre revivre cette histoire. Et puis en regardant, en allant beaucoup sur le net, je me suis aperçu qu'effectivement il y avait dans la mémoire de beaucoup de joueurs, beaucoup de lecteurs, beaucoup de personnes, il y avait quand même quelque chose qui existait toujours, une relation. Donc à un moment donné, étant éditeur de livres, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus facile pour moi de faire de l'édition. Et donc ayant la chance d'avoir un peu de disponibilité d'Olivier Richard, qui lui est un journaliste à la fois remarquable, un très bon écrivain, et surtout qui a une vision très ouverte de tous les types de culture ou de composants de la culture. Donc on s'est trouvé et puis on a travaillé finalement assez efficacement, rapidement, avec beaucoup d'interviews. C'est triste à dire, on était toujours d'accord. Donc voilà. Et puis donc c'est sorti et vraiment on est content de l'avoir fait. On espère que ça va plaire, que ça sera lu, ça va durer, mais en tout cas, moi je suis très content, c'est déjà pas mal.
On résume Player One, Nintendo Player, l'émission Player One sur MCM, Manga Player également, il y a eu encore d'autres titres, oui. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment ça s'est arrêté?
Non, ça a marché sur la... Les titres ont marché sur la durée, puisque la société a existé presque 15 ans. Et ensuite, il y a eu une évolution du marché de la presse jeux vidéo, et on a assisté à un déclin des généralistes. Et d'ailleurs, maintenant, quand on regarde ce qui sort en kiosque, il y a quasiment plus aucun titre qui vend. Les ventes sont, pour la plupart, tournent à moins de 10 000, alors qu'à l'époque, au milieu des années 90, c'était souvent plus de 100 000, pour différentes raisons. Un, en 95, le fait que 95-96, le fait que la PlayStation a pris le pas sur toutes les autres machines, ce qui a permis au magazine officiel PlayStation de prendre le pas sur quasiment tous les généralistes, puisqu'ils vendaient plus de 100 000, et parce que les gens s'intéressaient à acheter essentiellement des PlayStation. Entre 96 et 97, c'est vraiment l'ère PlayStation. Et tous les magazines généralistes de l'époque connaissent une baisse sensible de ventes, parce qu'en fait, les gens, quitte à acheter un magazine, ils vont acheter un magazine 100% consacré à la machine qu'ils détiennent. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le second paramètre, et c'est l'émergence d'Internet, et là, on rejoint la crise générale de la presse, puisqu'elle est en phase de mutation. Donc ça n'a pas aidé la vente des magazines de jeux vidéo. On assiste au même phénomène dans la presse cinéma d'ailleurs. Et le troisième paramètre, c'est différents problèmes conjoncturels qu'a rencontré MSE, qui s'additionnant à ces problèmes structurels ont fait que la société a disparu et a tout de suite été remplacée par Pika, parce que les patrons de MSE estimait à juste titre d'ailleurs que le marché du manga allait connaître un essor fulgurant en France. Et 10 ans après, on voit que c'est tout à fait vrai, puisqu'il se vend en France environ 12 millions de mangas par an. Donc c'est un phénomène colossal.
Pour la réalisation de ce livre, tout ça vous a pris combien de temps d'écriture?
On en a parlé en juin. Et on a terminé le bouquin début janvier, mais le travail en lui-même a pris 4 mois et demi.
Vous avez peut-être dû réinviter d'anciens collaborateurs ou d'anciens invités que vous aviez eu dans vos anciens numéros. Vous avez peut-être repassé en revue les anciens acteurs avec lesquels vous avez travaillé, non ?
Oui, bien entendu, on a regardé tout ce qui était contenu des magazines de l'époque. Donc on a regardé les sommaires des 104 numéros de Player One et on a interviewé 53 personnes uniquement pour le livre. Donc des interviews qui sont inédites, donc des interviews de cinéastes, des interviews de professionnels du jeu vidéo, des interviews de professionnels du manga, de l'animation japonaise, des anciens journalistes, des anciens collaborateurs du magazine, des dessinateurs de bandes dessinées. Donc tout ça, ça a abouti à plus de 50 entretiens. L'idée étant de laisser la parole aux acteurs de l'histoire.
Est-ce qu'il y a des petites anecdotes des petites anecdotes de rédaction qu'on peut trouver dans le livre, justement, sur votre vie à la rédac, votre vie de rédac, si j'ose dire?
Oui, c'était une ambiance très, très potache, puisque la rédaction au début de Player One avait moins de 25 ans de moyenne d'âge et les testeurs avaient 21 ans de moyenne d'âge, donc pour beaucoup c'était leur premier job et il y avait une ambiance qui était vraiment hyper sympa, et d'ailleurs pour la plupart ils l'ont jamais retrouvé dans d'autres rédactions. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est que sans s'en rendre compte, ces gens-là en fait participaient à un essor et découvraient des choses, et quasiment tous les mois on avait soit un jeu complètement révolutionnaire, soit une nouvelle machine, soit une nouvelle BD, soit un nouveau dessin animé. Et c'était une époque où il n'y avait pas encore internet, donc c'était beaucoup plus difficile, enfin on s'en rendait pas compte, mais chaque fois qu'on réussissait à récupérer quelque chose, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait soit aller acheter en import, soit trouver un copain qui partait au Japon, soit se le procurer de façon pas limite clandestine, mais c'était un peu Indiana Jones. Il y avait des déceptions terribles, mais on a assisté, on a vu le Jurassic Park, on a vu Terminator 2, on a vu le développement de l'image de synthèse, on a vu l'arrivée des 16 bits, des 32 bits, des 64 bits, on a vu la traduction d'Akira, on a vu la traduction de Dragon Ball, et on a eu la joie de voir qu'il se passait plein de choses. Et maintenant, s'il y a 200 000 personnes qui se réunissent en cumul pendant les deux Japan Expo, c'est parce qu'il y a eu des gens comme ces journalistes, et les autres d'ailleurs, parce qu'après il y a eu Joypad et compagnie, qui un petit peu ont travaillé pour que ça soit connu en France.
Voilà, Alain Kahn, Olivier Richard à l'instant, l'interview donc des papas, on va dire, du magazine Player One, une aventure qui, on l'a dit, a duré 10 ans. Pour les voir en vrai, alors l'interview a été réalisée à Japan Expo Sud, donc si vous étiez marseillais il y a de cela, on va dire, un petit mois, vous aviez l'occasion de les rencontrer. Là, ils seront également au Salon du Livre à Paris, porte de Versailles. Ce sera de vendredi à dimanche prochain, du 26 au 28. Voilà pour cette interview. Alors entre les deux, voilà, je cherchais également le petit truc que j'avais oublié de dire. Entre les deux, il y avait une chanson qui était tout à fait de circonstance, qui est YMCK. YMCK, si vous ne connaissez pas encore, c'est un groupe, donc ce qu'on appelle de cheap tunes, c'est-à-dire de musique faite à partir de puces sonores de vieilles consoles. Là, en l'occurrence, ils ont vraiment jeté leur dévolu sur la Nintendo, mais le nom cheap tunes vient en fait du Commodore 64, pour la petite histoire. Les premières, en tout cas, chansons comme ça ont été, selon la légende, composées sur une puce sonore de Commodore 64. Eux, c'est sur une bonne vieille Nintendo, et ça vous donne un aperçu de ce qu'il était possible de faire au-delà des bip bip d'un Mario de base. On va dire ça comme ça. Tu as quelques souvenirs, toi, de Nintendo ou de choses comme ça ou...
Non, oui, j'avais 10 ans.
Ah oui, donc vraiment, c'était tes premiers pas.
C'était vraiment mes premiers pas dans l'univers japonais.
Voilà. Donc, on va continuer avec tout cet univers un petit peu synthétique d'ailleurs. La chanson, ce sera Moog Is Love. C'est la chanson qui ouvre l'album We Hate The Machine. Et l'artiste, c'est Polyzix. Polyzix, groupe d'électro-rock qui vient de se séparer d'ailleurs d'un de ses membres tout dernièrement. C'était Caio qui est parti. Voilà, maintenant ils ne sont plus que trois. C'était auparavant, vous l'avez compris, un quatuor. La chanson, donc on le rappelle, ce sera Moog Is Love. Juste après, ce sera Boom Boom Satellites, et c'est tiré de la BO d'Appleseed, l'excellente Appleseed. La chanson, ce sera Die For You. Muteki, c'est toujours à partir.
Ou de mauvais pieds, coincé aux toilettes, pas de radio près de vous,
j'en suis pauvre,
ou tout simplement pas lyonnais,
oh, peu cher à la pétanque.
Connectez-vous sur internet myspace.com/mutekekanu.
Le groupe, c'est les Boom Boom Satellites et c'est tiré de la BO d'Appleseed, tiré de la bande dessinée de Masamune Shirow. Le fameux Masamune Shirow. Bon, bref. On était auparavant dans le monde de Polyxis, le monde complètement barré, complètement électro-rock de Polyxis. Alors, je décrivais un peu leur attitude sur scène. Ils sont, si vous ne connaissez pas encore et si vous n'avez peut-être pas encore regardé No Life, parce que c'est vrai que No Life adore ce genre de groupe. Polyxis sont en complet orange sur scène avec des lunettes très années 80, genre le futur tel qu'on le voyait dans les années 80. Et ça bouge de partout. Ça part un peu dans tous les sens, c'est une sorte de feu d'artifice sur scène de la part de ce groupe, encore une fois d'électro-rock, si vous aimez ce genre de son complètement à l'ouest, complètement barré, quoi, voilà, c'est un peu ça. Donc Boom Boom Satellites, Appleseed, Dive for You, j'avais oublié de mentionner le nom de la chanson. On va terminer avec une chanson beaucoup plus calme, beaucoup plus aérienne, beaucoup plus onirique, je cherchais le mot, voilà, avec une artiste que tu aimes beaucoup qui est Kokia.
Kokia, oui.
Voilà, donc que tu connais alors par certains génériques, alors toi.
Oui, elle a chanté générique du manga Element.
Oui, voilà. Alors celui-ci, par contre, la chanson qu'on va passer, c'est tiré de l'album The Voice et c'est Follow the Nightingale. Mais par contre, c'est tiré, alors ce coup-ci pas d'un manga, pas d'un dessin animé, d'un animé comme on dit, mais c'est tiré d'un jeu sur Nintendo DS, voilà, qui s'appelle Tales of Innocence. Et par contre, alors pour la petite histoire, ce single a eu beaucoup de succès au Japon. Kokia, ça fait quand même une grosse vingtaine d'années, je crois, de carrière, si je me souviens bien. Elle a commencé au début des années 90. Et là, alors, l'album The Voice date de 2008. Alors, nous, en plus, en France, on est quand même des petits chanceux parce qu'elle est fan de notre pays. Et quand je dis fan de notre pays, ça veut dire que le dernier album qu'elle sort, qui s'appelle Real World, qui est beaucoup plus international, même plus orientalisant que le reste de sa discographie, sort 5 jours avant le Japon, chez nous. En France, il sort le 25 mars, donc sous nos contrées, et le 31 mars, ce sera pour le Japon. Donc dès mercredi en France, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes crèmeries. J'adore dire ça, et pourtant ça fait très radiophonique et il faut absolument pas le dire. Ça fait vraiment, mais ça fait lourd en plus. Bref, pas du tout le genre de chanson auquel on va avoir droit d'ici quelques instants, la chanson. Donc on le rappelle, Follow the Nightingale, tiré du jeu Tales of Innocence, tiré de l'album The Voice de 2008. On va se quitter donc sur cette chanson-là. Élise, on te dit à la prochaine fois alors.
J'espère, ce fut un plaisir de venir ici.
Et c'est quand tu veux, c'est absolument aucun problème. Et nous, on se dit alors, pas à la semaine prochaine, pas à la semaine d'après, vous retrouvez Romain d'ici 3 semaines, je crois, oui, 26, 3 avril, oui c'est ça. 27, 3 avril. Donc voilà, d'ici 3 semaines, vous retrouvez Romain. Nous, on se dit matane. Très bonne semaine, au pluriel. À tous, matane.
dusty.